Ils travaillent mieux grâce à vous, grâce à votre pensée. Vous pensez pour eux. L'encadrement pense et le personnel exécute. Voilà, pensez pour les autres. Et puis, vous avez surtout les missions qu'on appelle régaliennes, les missions de contrôle. Le cadre, il est payé pour contrôler que tout ce qu'il a donné comme ordre, ça fonctionne. C'est à peu près, grosso modo, les aptitudes du cadre du XXe siècle. Alors, pour vous citer un bouquin formidable, si vous avez envie de vous donner de l'espoir, de la motivation, en vous demandant qu'est-ce que je fais ici, lisez un livre que je fais lire en M2. Vous allez voir du côté du M2, vous aurez ses références. Ça s'appelle « Liberté et compagnie ». C'est un bouquin écrit par l'universitaire franco-américain et par un journaliste américain de Wall Street Journal qui montre un truc fantastique, c'est qu'on peut ériger la liberté comme principe de gouvernance de grandes entreprises et qu'on peut se débarrasser de toute la partie contrôle administratif et que ça marche mieux. C'est un discours tout à fait incroyable. Dans un univers borné, au sens étroit, limité, il y a un certain nombre d'entreprises dans lesquelles les choses se passent avec, comme premier principe, la liberté. Liberté & Co. Vous pouvez lire ce bouquin, là c'est pas un bouquin pour, par rapport aux théories avec ce qui manque, c'est un bouquin pour vous donner un peu espoir, un peu confiance, pour se dire que dans ce monde pas très facile, difficile, compagnie, il y a quand même des boîtes dans lesquelles ça marche. J'en voulais deux. J'ai cité deux boîtes américaines, parce que les boîtes françaises, si je vous parle de Favi, une sidérurgie du nord de la France avec 1000 personnes, ça ne vous parlera pas. Ils font des pièces pour Mercedes quand même. Ils ne sont pas trop mauvais. Bon, deux boîtes américaines, boîte américaine, boîte française. Boîte américaine, nous parlons tout de suite, Harley Davidson. Plus aucun contrôle administratif. Donc la partie régalienne, supprimée. Deuxième boîte, Gore-Tex, qui fait les tissus techniques. Est-ce que c'est les Gore-Tex pour les chaussures? Voilà. Donc, qui sont des boîtes avec des milliers, des dizaines de milliers de collaborateurs et qui ont aboli les systèmes de contrôle. Donc, ce sont des entreprises qui sont déjà, on va dire, 21e siècle. Vous me direz qu'on y est. Mais, comme vous savez, les siècles ne suivent pas toujours l'arithmétique. Alors, le 21e siècle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut penser le complexe. Vive l'interaction et la dualité. Ça, c'est encore une chose très franco-française, épouvantable quand on bouge un petit peu. Nous, en France, on adore, je vous l'ai déjà dit, le blanc noir, le guinon, les séparations. Dans le monde complexe, il faut penser la dualité. C'est-à-dire être capable de penser une chose et son contraire. Ceux d'entre vous qui se rappellent de leur cours de littérature sur le surréalisme se rappelleront peut-être d'André Breton. Parfois, c'est la poésie ou la littérature qui invente des concepts qui ensuite seront repris ailleurs. Mais on invente des poètes, quoi. André Breton disait « Il doit exister un point de l'esprit où le réel et l'imaginaire, le rationnel et l'irrationnel, le vrai et le faux, cessent d'être perçus contradictoirement. » Cessent d'être perçus contradictoirement. Donc là où nous mettons de la contradiction systématiquement, il n'y en a pas forcément grâce à l'approche de la dualité. Bon, réseau, modélisation, créativité intellectuelle, intelligence collective, etc., etc. Bref, dans ce cas-là, les missions régaliennes, on en retire essentiellement la motivation. En une phrase, ça se résume en disant qu'on doit passer du contraindre au convaincre. Et là, pour vous, c'est la confiture, c'est agréable ça. Contraindre ou convaincre. Quand on est dans une société où il faut contraindre, parce qu'on a besoin de beaucoup de communication. Ah non, c'est un ordre rompu. On n'a pas besoin de communication, non. Dans une société dans laquelle il faut convaincre les agents du bien fondé de ce qu'on leur demande de faire, et la façon dont on leur demande de s'organiser pour le faire, je crois que beaucoup de communication. Ce qui veut dire aussi que le débat sur la pérennité de la communication, comme je l'ai déjà indiqué l'an dernier, que j'ai rappelé la semaine dernière, il est derrière nous. Dans des sociétés développées, il faut beaucoup de communication. Plus on se développe, plus il faut de la communication. Ça va de pair. Alors si on s'appauvrit, Effectivement, il faudra moins de communication, c'est vrai. Les sociétés sous-développées, les sociétés de simple subsistance, malheureusement, n'ont pas trop besoin de communication. Et si elles n'en ont pas besoin, en tout cas, elles n'ont pas les moyens de se payer la communication. Bien, alors, la recherche et puis l'entreprise, pourquoi vous allez chercher ? Ben, moi, j'aime bien utiliser le mot jubilation, parce que quand on trouve quelque chose, vous allez voir, quand on s'entraîne à faire des problématiques, à trouver des choses, ben, il y a une jubilation. On pourrait dire jouissance, hein. Mais la jubilation, c'est un mot qu'on emploie en maths. En fait, c'est la jouissance au carré. C'est la jouissance de la jouissance, la jubilation. Quand je jubile, je suis conscient de la jouissance que j'éprouve. C'est pourquoi on a ce mot qui est plus fort. La jubilation, c'est au-dessus. C'est pourquoi j'emploie le mot jubilation. Stimulation intellectuelle, bon, enfin, sans dire, découverte de la complexité des interactions sociales, ben, c'est simplement ceux qui ont tendance à penser qu'il n'y a que deux variables. Quand j'ai parlé de motivation tout à l'heure, on a cru pour le moment que la motivation au travail, c'était l'argent, le salaire. On s'est rendu compte dans les années 20, avec des chercheurs sociologiques du travail américains. Vous voyez qui, non ? Pour ceux que non, avec les formations que vous avez, je ne pense pas. Les premiers travaux sur la motivation. Non, mais pardon, quand j'ai la formation que vous avez, non, ne prenez pas ça mal. Je ne dis pas par rapport au fait que vous n'avez pas foutu grand-chose. Non, ça peut se comprendre comme ça. Mais là, non, c'est pas ça du tout. C'était parce que certaines années, les provenances des étudiants font qu'ils ont pu faire ça dans les cursus qu'ils ont fait. Donc, ce n'était pas négatif, c'était positif. Je précise. Non, vous ne voyez pas ? À Angers, non ? Non. Elton. Vous allez me dire. Mayo. Emma Igrego, Elton Mayo, 1927. Ça fait deux fois que je suis 27 ce matin. 1927 sur la motivation au travail. Les travailleuses de la Westinghouse. Toute une série de travaux, ça vous dit quelque chose, dit Ah, ben voilà, vous avez vu Mayo. C'est bien ce qu'il me semblait. Parce que je l'avais dit, mais il y a très longtemps. Donc Mayo. 1927, on se rend compte que la motivation au travail, c'est pas que le fric, c'est la considération, tout simplement, la considération. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Le fait qu'on remarque que le travail est bien foutu, ça compte énormément pour vous motiver. Alors c'est vrai que s'il n'y a que ça et qu'il n'y a pas d'argent, ça va pas marcher longtemps, hein, mais ça a été, on sait ça de manière scientifique irréfutable. Vous direz qu'avant, on avait une petite idée quand même, hein. Mais on le sait depuis 1927 avec des gros travaux qui ont prouvé ça sur des centaines de personnes pour lesquelles on s'est rendu compte que l'argent n'était pas la motivation essentielle qu'en avait l'état d'autre. Donc raisonner sur plusieurs variables, toujours pareil, et découvrir la complexité des interactions sociales. Prendre de la distance, j'ai dit tout à l'heure, y compris avec mon histoire du périphérique de Saint-Étienne, là. Identification, ben, on en parlera, je ne vais pas le dire maintenant. Modélisation, je l'ai déjà dit. Propédeutique, ben, j'ai employé le mot tout à l'heure, vous voyez. Alors là, je parle de vision partagée. Pourquoi ? Parce que je considère qu'une bonne problématique, c'est une vision partagée. Et la vision, c'est le centre, on a dit, le positionnement du Master 2. D'accord ? Même si le mot vision, je ne l'avais pas mis pour des raisons dont je me suis expliqué. Voilà, le challenge de tout cadre, c'est de savoir faire participer son équipe à la construction de problématiques et de finalités partagées. Vous voyez le changement ? C'est pas le cadre qui dit « tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça », mais c'est on a un problème à résoudre ensemble, on va apprendre à le résoudre ensemble, et chacun va y apporter quelque chose. Et le quelque chose sera coordonné par le fait qu'on est dans une vision partagée. Tout ça, on l'approfondit en M2, bien sûr. Mais à chaque fois, je le redis, que je vous parle du M2, et que ça vous tapique votre curiosité, vous êtes plus fastoche, vous cliquez sur M2 sur le site, et vous allez regarder la bibliographie du M2. Il y a des bons bouquins à lire, M2 qui vous montrent tout ça. Là, je vous le dis sans vous l'argumenter, parce que j'en ai pas le temps, les temps humains. Mais vous avez la facilité de pouvoir trouver tous les éléments que vous voulez, et puis d'en être, je pense, convaincu, voire, si vous n'êtes pas convaincu, qu'on en discute. Bon, ça, je passe. C'est un des grands formateur des plus grands managers français, Vincent Lénard, avec lequel j'ai bossé, qui m'a préfacé mon bouquin, puisque celui que vous avez vu là, j'en ai une version pour les écoles de commerce. J'ai demandé à ce gars-là de me le préfacer. Pourquoi ? Bon, stratégie planifiée et d'être à tout instant capable d'accueillir les émergences, les occurrences d'une vision bâtie, Vous voyez, sur les scénarios alternatifs, on a parlé de scénarios tout à l'heure, méthode des scénarios, hein. De développer son intuition, ça vous fait plaisir, non? Il faut l'intuition. Dans un mémoire, il faut l'intuition. Il faut cultiver son intuition. C'est un petit peu ce que disait Picasso au fond d'ailleurs. Et sa capacité à se projeter intuitivement dans le futur. Double appartenance à ces deux mondes qui se contredisent continuellement, le monde de la planification, celui du constructivisme, oblige le dirigeant à être un homme de recherche permanente, à être ouvert à l'innovation. Ce qui montre que si vous modélisez, vous serez meilleur dans tout ce qui est entreprise, pour le dire comme ça. Hein? Bon, ça je laisse tomber. Voilà, pour... Alors, un esprit de chercheur, c'est bon pour la vie. Pas de conformisme. Facteur de positionnement, les nouveaux facteurs de la GRH, là, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. Hélas. Bon. Comment donner du sens, comment créer de la valeur, penser différemment. Voilà. Bon, donc j'ai répondu à cette question, vous voyez, ça je ne traite pas. Objectifs généraux, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, donc c'est pas la peine que je vous le traite maintenant, je l'ai détaillé sans les diapos, mais vous le retrouvez sur les diapos. Si vous le souhaitez, bien sûr. Bon, alors, je voulais quand même aujourd'hui entamer, c'est pourquoi je vais un petit peu vite, le positionnement perso. Je considère donc que l'introduction s'achève maintenant. On commence le chapitre 1, voire plan tout à l'heure. Le chapitre 1, positionnement, posture si vous préférez. Dans le positionnement, on va voir trois grandes parties. La première, le personnel, on avait annoncé dans le plan. La seconde, ça sera le positionnement institutionnel, très très court. Et la troisième, le positionnement épistémologique, nettement plus copieux. On commence par le positionnement perso. Ça doit commencer par un certain nombre de questions. Quelles sont vos finalités à vous? Le mémoire, c'est quoi pour vous? C'est quoi? Est-ce que c'est être meilleur? Je vais dire que si... Quand on vous demande le mémoire, c'est quelle finalité, vous me répondez avoir une bonne note. Ouais, un peu court. Donc c'est quoi?
L'envie.
Oui, ça peut être l'envie, bah, par exemple, de se dépasser. Ça, c'est un truc très fort. L'envie de se dépasser, de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire un sacré boulot. Je n'ai pas donné de valeur quantitative, je pensais que vous m'auriez posé la question. La mémoire fait entre 60 et 80 pages, plus les annexes. Voilà. 60-80, c'est une fourchette. Si vous faites 55 pages et qu'il est génial, il n'y aura pas de problème. Si vous en faites 150 ou 200 qui est génial, il n'y aura pas de problème. Mais dépasser les 100 pages, il faut tenir la route, hein, quand même. Bon, on a des mémoires, des records, hein. On a dû faire 300 pages. Bon, mais il faut que le lecteur ne s'endorme pas. Alors à vous de vous dire, si je fais 50 pages, comment faire en sorte que mon lecteur ne s'endorme pas à mesure. Voilà, vous ne savez pas, vous savez si l'aventure, ça vous inquiétait. Alors, les finalités, ça peut être de se dépasser, ça peut être d'œuvrer à la fonction communication en France, comme je disais tout à l'heure, ça peut être ce que vous voulez. Hein, ce que vous voulez. Mais vraiment, il faut qu'il y ait quelque chose d'intense, de profond. Il n'y a que si vous réfléchissez sur la finalité, et si vous la fixez librement, que vous avez l'énergie en retour pour pouvoir répondre aux efforts il va falloir fournir pour y parvenir. La volonté, les vélitaires, faites attention, hein, les gens qui disent lundi j'arrête de fumer, lundi je me régime, lundi ça tombe bien, lundi je fais quoi, je fais de la gym, ou je fais ci, ou je fais ça, ou je fais pas ça, bon. Hein, et puis bien sûr aujourd'hui non, je fais pas, parce que, voilà, donc vous êtes un peu trop vélitaires. Méfiez-vous-en. Ça, c'est des questions qu'il faut vous poser vous-même. Ça s'appellerait aussi examen de conscience. Les jésuites avaient inventé cette notion formidable d'examen de conscience. C'est un truc épatant, indépendamment de l'appartenance jésuitique. Vos capacités. Et dans vos capacités, il y a vos capacités intellectuelles, j'ai déjà dit à deux reprises, je crois. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre pour les ouvrages théoriques à lire. Mais aussi les capacités physiques. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir, je ne sais pas moi, 8-9 heures de sommeil toutes les nuits.
organisation, ou de désorganisation. Enfin, voilà, il y a, dans les capacités, je ne les ai pas détaillées, mais faites cet examen de conscience. C'est le moment. À part l'épisode de la L3, c'est en principe à ce niveau de Bac plus 4 qu'on vous demande pour la première fois un travail de grande ampleur. Vous serez totalement seul. Certes, il y aura directeur de mémoire dont on va parler plus tard, mais vous allez être seul. Il ne s'agit pas de vous tromper déjà face à vous-même. Donc ne vous trompez pas sur vos capacités aussi bien intellectuelles que vos capacités physiques, que vos capacités organisationnelles, etc. etc. Hein? Attention à ça. Et je dirais que ceux ou celles qui ont tendance à être un peu inorganisés, ben c'est le moment de rectifier le tir. Par exemple, en vous faisant des plannings, très très stricts, avec telle chose à faire à telle date. De même, pour un certain nombre de lectures, bah, entraînez-vous peut-être à prendre des notes sur des bouquins si vous ne l'avez pas déjà fait, etc. Attention quand même, hein, le mémoire va vous permettre d'infléchir votre personnalité, mais en aucun cas de la modifier, radicalement. Ça ne fournit pas de miracle. Puis peut-être que ça vaut mieux aussi. Donc, vous pourrez corriger peut-être des tendances. Ouais. Il y a des gens qui me disent, après coup, bah, finalement, grâce aux mémoires, j'ai appris à un peu mieux m'organiser. Un truc tout bête. Quand vous lisez des bouquins, vous prenez les notes où et comment? C'est tout simple. Les notes, il faut que ça soit pris scrupuleusement, page machin, recopié, alors soit directement à l'ordi, soit à papier crayon, ça, chacun fait comme il veut, etc. Vous voyez, il y a tout ça. Et peut-être que le mémoire va vous permettre de mieux vous organiser. Mais ce n'est pas pour autant que ça va transformer quelqu'un qui est complètement bordélique en quelqu'un de super soigneux. Hein, il n'y a pas de miracle. Il y a aussi les questions d'opportunité. Je vais d'ailleurs le traiter en même temps que les ambitions. L'opportunité, bah, c'est qu'un mémoire peut être une opportunité de résoudre un vieux problème existentiel pour vous, un rêve. Pourquoi je... le mémoire peut être un mémoire qui va correspondre à une commande, par exemple une association dans laquelle vous êtes investi, et ça sera très opportun de travailler sur les thèmes défendus par l'association en question. Hein, ça peut être vraiment le bon moment. Ça peut être une opportunité à caractère directement professionnel, politique, parfois même si c'est un mémoire lié à la politique ou à la communication politique. Ça peut être un mémoire très ambitieux qui a pour fonction de faire changer les choses, de faire changer la perspective qu'on a sur tel ou tel problème social de n'importe quelle nature. Vous voyez ? Et là, il ne faut pas hésiter à faire quelque chose de très ambitieux, au moins à ce stade. Après, le principe de réalité fera que vous allez peut-être atténuer un petit peu. Mais si dès le début, on vous dit de ne pas être ambitieux, qu'est-ce que vous venez faire ici ? Vous voyez, soyez ambitieux dans votre mémoire. C'est plutôt bien quand on se dit à soi-même, on ne le proclame pas, qu'on a envie de changer les choses, de contribuer en tout cas à les changer. Si à votre « Ah, je n'avais pas envie de changer le monde », vous le ferez quand ? Hein ? Bon. Après, il y a deux choix existentiels. Si vous êtes de nature conformiste, conformiste, c'est je prends pour argent comptant tout ce qu'on me raconte, voilà, c'est comme si, c'est comme ça. Bon, ça vous fera une mémoire académique, au sens de la peinture académique. C'est marrant le mot académique, hein, parce que quand on est à l'université, on dit qu'académique c'est bien, quoi, faire une mémoire académique. Si jamais vous dites ça à un peintre, vous recevez son pinceau à la figure. Hein. Allez, parce que vous avez des copains peintres qui essayent de faire des souvenirs aux beaux-arts d'ailleurs, que l'on met à peinture académique. Comment ? C'est une injure de dire à un peintre que c'est académique, un constructeur, un plasticien, que c'est académique. C'est impossible, alors que nous, on se gosse de l'académisme. C'est vieux jeu, l'académie. Hein ? Vieux jeu, dépassé, has-been, enfin, prenez tous les mots mal, vous pouvez trouver. Rétro, kitsch, etc. À propos du kitsch, à Baramol, psychologie du kitsch, un bouquin formidable sur le kitsch. Et puis vous avez à l'opposé les aventuriers. Les aventuriers, bah, c'est ceux qui vont prendre des risques, par définition. Et les risques qu'on prend dans la mémoire, parfois ça peut être des risques physiques. Hein. Tiens, y a un mémoire, ici, il y a quelques années, soutenu sous un faux nom par une étudiante, sous un faux nom, avec un directeur de mémoire qui avait un faux nom. Le directeur de mémoire, c'était moi. Faux nom. Tout était faux. Pourquoi ? C'est un mémoire sur les sectes, le recrutement des sectes à Saint-Étienne. Et je lui avais dit, vous prenez un faux nom, vous faites adresser les documents en poste restante, et tout bataclan. On a fait la soutenance devant les... Il y a une association qui s'occupe de combattre tous les phénomènes sectaires. C'était un très brillant mémoire. Et là, la fille qui a fait ça a pris une certaine forme de risque. Vous voyez, c'est pas un risque épistémologique, c'était quand même du risque. Mais la preuve du risque, c'est que deux ou trois ans après, il y a des gens de je lui avais dit Moon, non. Je lui ai dit un interdit Moon. De toute façon, il n'était pas à Saint-Étienne. Mais elle avait, la scientologie.
L'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Ouais.
C'est l'église actuelle.
Ah bon ? Bah ça, c'est bien passé. Alors, il y a ceux qui sont plus ou moins dangereux, la scientologie, bon. Et puis, il y a les doudingues. Il y avait Raël. Vous savez, ceux qui pensent qu'il y a des extraterrestres parmi nous. Alors, cela, ça va.
Ah, et c'est 75 épouses.
Ouais. Il a tout construit. Voilà, c'est ça. Bon, cela, ok. Mais là, elle avait vraiment pris quand même des risques, parce que je vous disais, deux, trois ans après, il y a quelqu'un de la scientologie qui a réussi à retrouver sa trace quand même. Parce qu'elle avait enquêté avec son faux nom, voilà. Bon, alors ça peut être du risque de toute nature, mais jusqu'à du risque presque physique, quoi. En passant par du risque, j'entends surtout du risque épistémologique, de prendre des concepts un peu difficiles, parfois d'aller contre la pensée de tous les jours, hein, contre les idioties de tous les jours. Dernière anecdote, j'ai appris ça ce week-end par une directeur d'un grand groupe, enfin d'une structure d'un grand groupe français, d'un très grand groupe français, CAC 40, qui voit sur une plaquette très bien foutue un avion dans le ciel. C'est un groupe du BTP. Hein. Ils construisent des aéroports, machin comme ça. Et cette gourde, pauvre gourde, qui barre l'avion en disant c'est pas bien. C'est pas bon pour le développement durable. Les bras vous en tombent. Ce niveau de bêtise. Et là, c'est la bêtise crasse. C'est impensable. Rendez compte. Il y a des gens qui construisent des aéroports, qui font tout pour que ça soit bien comme il faut, et qui. La fille ne veut pas d'un avion, parce qu'un avion, c'est pas bien. Donc, attendez. Quand c'est à ce niveau de bêtise, là, vous êtes dans le pire des académismes. Alors, vous êtes de quel côté individuellement ? Ben, je ne sais pas où vous êtes. Il n'y a que vous qui le sachiez. On ne vous demande pas de vous révéler. Hein. Le mémoire, ce n'est pas le confessionnal. On ne vous demande pas de venir vous confesser. Non, ce n'est pas ça. On vous demande de vous poser la question et d'essayer d'y répondre sincèrement. Et d'en être conscient. Bref, de prendre de la distance par rapport à ça. On peut faire de très bons mémoires académiques. On peut rater totalement des mémoires épistémologiques, et réciproquement, bien sûr, dans les deux sens. Mais il faut vous poser toutes ces questions-là, sinon, il n'y a rien de pire. Les gens qui foncent comme des brutes sur un sujet, ils y passent 2-3 mois, et au bout de 3 mois, ils se rendent compte, non, c'était pas ça. Et on efface tout, on recommence, et ainsi de suite. Et ces gens-là, généralement, il se passe un truc tout bête, hein. Ils ne terminent pas le mémoire. Qui est la principale cause d'échec en master, je vous l'ai dit. Ce sont les gens qui ne terminent pas le mémoire, qui n'arrivent pas à le boucler dans les temps, ou qui y arrivent mais qui ne veulent pas soutenir, en tout cas, hein, et à l'arrivée, de toute façon, ils n'ont pas le master. Et ça, c'est un petit peu embêtant pour eux. J'ai parlé de l'examen de conscience tout à l'heure, au sens des jésuites. Hein. Très très bien l'examen de conscience. Pratiquez-le. Hein. Avant de vous accorder le moindre petit plaisir, dites-vous, ça commence par qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien. Indépendamment des questions de religion, hein, c'est Jésus qui l'a inventé, donc c'est forcément des religieux, mais indépendamment de ça, on peut se l'approprier sous l'angle complètement laïque, pour le dire de cette façon, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui ? Et de bien, ça vous pose la question des finalités. Qu'est-ce que j'ai fait d'utile ? Qu'est-ce que j'ai fait de bien ? Etc. C'est quand même pas mal. Donc, définir sa stratégie perso par rapport à l'école dans laquelle on se trouve, c'est rédigé pour plein de... aussi bien les écoles, les centres de formation, etc. Donc votre stratégie perso, vous commencez à voir un petit peu comment ça se passe ici, la définir à partir de ce qu'on a dit tout à l'heure de votre examen de vos capacités, de votre volonté, etc. Procéder à l'évaluation raisonnée de ses capacités perso,
Voilà. Et peut-être profiter pour les faire un petit peu bouger. Tout mettre en œuvre pour trouver un bon sujet. J'ai mis des guillemets. Alors, pour bien faire entendre la chose, qu'est-ce que c'est qu'un bon sujet? C'est comme un vêtement. Un bon sujet, c'est le sujet qui vous va bien. Vous allez le porter pendant quelques mois, ce sujet, vous allez vivre avec. J'ai dit parfois nuit et jour, quand on arrive pendant la finalisation. Il faut que ça vous aille bien, il faut que vous sentiez bien avec. Il faut que ça vous excite tous les jours, que vous ayez envie d'en savoir plus tous les jours. Quoi. Hein, si le matin, vous pensez, oh là là, il faut encore que je me tape le mémoire. Oh là 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 là. Bon. Donc, pour vous, petit conseil, ne partez pas trop vite. Utilisez cette période-là où il n'y a pas encore trop de cours, vous êtes à peu près cool, pour commencer à réfléchir indépendamment ou en relation avec le sage, comme on l'a dit. Mais n'allez pas trop vite. Lisez, renseignez-vous. Réfléchissez tout simplement, essayez de trouver d'abord un thème. Là, je dis sujet, on peut d'abord parler d'un thème, bien sûr. Hein. On prend le thème général et après, ça peut être le sujet. En particulier, en voyant soit ce qui est très original, j'y reviendrai, je l'ai dit, mais pas aujourd'hui, soit ce qui est déjà traité par tout le monde, mais sur lequel vous allez apporter quelque chose de nouveau. Le choix d'un coach, qui peut s'appeler professeur suiveur, bon, ici c'est directeur de mémoire, bien sûr. Je vous rappelle que tous les enseignants du M1 sont habilités à vous accompagner, à vous aider pour le mémoire, bien sûr, et que pour le cas, ils n'auraient pas la... Souvent, c'est la disponibilité, hein, c'est pas un problème de compétence, on peut le faire en co-direction, je crois que je l'ai déjà dit, j'y reviendrai. Ne pas avoir peur de la mise au point d'une problématique, les affres, hein, je me suis amusé, de la mise au point d'une problématique. Et pourquoi c'est si dur de trouver la problématique? Parce que quand on l'a trouvée, on a fait la plus grosse partie du boulot. Parce qu'au fond, la problématique, quand elle est bien faite, ça vous permet d'organiser tout le reste du travail. C'est pourquoi c'est difficile. C'est même angoissant. Mais l'outil dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la grille de faisabilité, va vous libérer de tout ça. Grâce à la grille de faisabilité, ben, c'est simple, hein. On essaye une problématique, elle passe à lui ou elle la passe pas? Elle la passe pas. Eh ben, c'est pas grave. On cherche une autre. Ça passe pas encore à lui. C'est pas grave. J'en prends une. Parfois, il faut 10, 15, 20, 30, 50 essais, ça fait rien. Il faut peut-être un peu d'obstination, un peu de persévérance, de suite dans les idées et compagnie. La méthode. Il faut y attacher une importance tout aussi importante que la problématique. Et c'est pourquoi je traite toujours de l'une et de l'autre. Il y a trop de cursus dans lesquels on parle de la problématique. Quant à la méthode, bah, il n'y en a pas. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais au fond, tout ça, bah, c'est ce qui va me nourrir mon introduction de mémoire, la fameuse note d'intention dont je parlais tout à l'heure, parce que je l'avais déjà dit ce matin. Dans la note d'intention, bah voilà. Il y aura ça, bon, je ne parle pas du choix du coach, on s'en fout, mais il y aura... Et puis, la méthode, qu'est-ce que je vais prendre comme méthodologie? Comment je vais prendre, hein? Est-ce que je ferai plutôt des questionnaires, plutôt des entretiens, plutôt l'observation participante qu'on dit, plutôt des profil types, plutôt des scénarios types, plutôt... Tous les outils, comment est-ce que je vais les combiner, ou est-ce que je vais prendre un seul outil? Voilà, ça fait partie de ces questions. Le corpus, j'en ai parlé, c'est ce sur quoi vous allez vraiment travailler. Et ça pourrait être, je l'ai dit, enfin, c'est peut-être pas la peine que je me répète, enfin, si je juste un petit peu, ça pourrait être soit un corpus complètement théorique, livre, article, bon, d'accord, soit un corpus, bah, qui sera un corpus à partir de populations que vous allez observer, d'entretiens que vous allez mener, d'observations diverses, parfois de mesures, etc. Hein, par exemple, un truc génial, une étudiante fait un stage dans une association sur les journaux des fan clubs et trouve une enquête jamais dépouillée sur ceux qui sont sur les fan clubs du web. Donc ça lui a fait d'un coup son corpus, c'était cette enquête jamais dépouillée sur les fan clubs du web, ce qui a fait un très très bon travail pour voir comment fonctionnaient les fan clubs, qui étaient, quel public, etc. Bon, les références, machin, bon, ça, j'ai rien de spécial. Et si jamais vous prenez, c'est le cas le plus fréquent en master, hein, il y a quelques mémoires qui sont purement théoriques. Je le redirai après. Purement théoriques. Là, on n'a que du bouquin, de l'article, rien. OK. Ça fait très peu. La plupart des mémoires de master sont des mémoires dans lesquelles il y a la théorie, mais il y a aussi l'application pratique. Et dans ce cas-là, bah, il faut que vous puissiez relier, alors je me suis amusé, j'ai dit harmonieusement, hein, le terrain avec le théorique. Alors le relier, bah, c'est déjà dans le plan, la façon dont vous allez le présenter. Il y a des gens qui présentent ça dans un plan, d'abord les considérations théoriques, vous savez, comme la soupe au début du repas. Hein. Alors je vous balance tous les concepts théoriques au début, je vais bien sentir que qu'est-ce que ça me rase. Et quand j'ai fini, alors après, je suis dans la pratique. Très mauvais plan. Le bon plan, c'est quoi? J'appelle tel concept, et voilà, je mets en regard l'application pratique. Ou je mets l'application pratique, et j'appelle le concept qui va avec. C'est autrement plus subtil, autrement plus efficace, et ça vous donne surtout la quasi-certitude de faire un vrai travail de recherche qui va être bouché sur des considérations nouvelles, et pas seulement... seulement du baratin. Bon, être capable, oui, il y a un problème, bon, il faudrait que je vois ça. D'en effectuer une présentation simple et sobre, je vais jusqu'à la soutenance. On expliquera comment se déroule la soutenance. Vous avez un petit topo sur le site qui vous explique, tout est même, c'est écrit, hein, j'ai pas la peine de réduire ça, comment est-ce qu'on doit organiser sa soutenance. J'ai pris des scénarios. On verra le moment venu. Mais c'est expliqué aussi, que vous sachiez comment vous allez vous y prendre. Vous jouez très gros sur la soutenance, je vous l'ai dit, ça se prépare, une soutenance, c'est pas rien. Il faut vraiment être dans une disposition particulière pour ça, c'est un jeu de rôle entre vous et nous. D'ailleurs, juste un truc pour comprendre sur la soutenance. À votre avis, pourquoi est-ce que dans un jury, on met toujours plusieurs personnes face à vous? Ou plusieurs commencent à deux, ou parfois trois, etc. Pourquoi? Vous êtes posé la question? On peut faire des réponses cucu du genre « Oh, parce que c'est la règle universitaire.
Ouais. » Pourquoi? Pour qu'il y ait différentes opinions, enfin différents points de vue.
Ouais, c'est ça, pour essayer de rétablir une certaine objectivité. Mm-hmm. Hein? Ouais. Ouais, c'est pas faux, mais c'est pas très. Ça n'a rien de. À la limite, on n'a pas besoin d'une soutenance pour ça. Hein. Vous pouvez faire un exposé sur n'importe quoi et vous appliquer ce que vous êtes en train de me dire. Là, on le fait sur l'exposé, mais pas sur une soutenance de mémoire qui vous a demandé des mois et des mois de boulot. Quoi. Non, il y a une raison beaucoup plus forte que celle-là. Oui, on peut trouver le côté intéressant et interactif, ouais, d'accord. Mais même observation sur un exposé, ça serait pareil. Non, il y a un truc beaucoup plus fort que ça. Vous allez bosser sur un sujet, bien comme il faut, en réunissant la documentation, c'est la partie bibliographie, en mettant point problématique, les méthodos, etc., etc. Gros, joli boulot, bien modélisé et tout et tout. Il arrive un moment où vous êtes très fort sur le sujet. Vous êtes sur la piste. Vous êtes tellement fort sur le sujet que la seule solution pour qu'un jury soit plus fort que vous, c'est pour se mettre à plusieurs. C'est tout simplement ça. C'est parce que nous, à plusieurs, on est plus fort que vous. Si on met qu'une seule personne, vous êtes plus forte, vous, que la personne qui est en face. Parce que vous avez tellement bossé votre sujet que vous en connaissez un rayon dessus. Et pour qu'on soit plus fort que vous, comme ces gars, c'est plus fort que toi, pour être plus fort que vous, il faut qu'on soit nombreux. C'est ça la vraie raison. Le reste, c'est ça. Vous êtes tellement costaud que... Je vous assure qu'il y a des mémoires dans lesquelles chacun d'entre nous apprend des trucs. Et donc,
donc, si vous en apprenez dans le mémoire, bah, la seule solution pour qu'on soit plus fort que vous, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'on soit plusieurs. Et là, c'est rare, je peux mettre la barre très haut, quelqu'un qui a mémoire 18 ou 19, on va dire, et qui est quasiment plus fort que le jury. Avec 19, hein. Mais bon, voilà pourquoi on est plusieurs. Indépendamment de toutes les raisons universitaires, psychologiques, machin, tout ça, c'est compliqué, d'accord. Et vous comprenez le truc, si jamais votre sujet est plan-plan, une seule personne, c'est suffisant. Ça suffit très largement. Donc, si on en met plusieurs, c'est pour cette raison-là, bien avant les raisons administratives, juridiques, académiques, je ne sais pas quoi, parce que, bon, voilà. Alors, les objectifs du mémoire. On y va. On attaque ça vite fait. Produire un document personnel de recherche sur un sujet lié au domaine scientifique de référence, c'est-à-dire à l'infocom. Bon. Personnel, c'est-à-dire que si c'est personnel, c'est pas du Wikipédia, c'est pas du copier-coller, c'est pas du malhonnête, etc., etc. Alors, juste un truc, si vous arrivez à trouver une référence de quelque chose et que vous nous la mettez, et que des gens un petit peu entraînés dans mon genre suspectent ça, je pourrais aussi. Oh, j'ai quelques anecdotes, mais juste une seule. C'était un mémoire, c'était pas ici, c'était dans une autre université, forcément. C'était l'époque du porno chic, il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Vous voyez cette vague de publicité pour les marques de luxe, avec des photos érotico, très tendancieux, licencieux, etc. Je reçois un mémoire, j'étais pas directeur mémoire, j'étais président de jury. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce machin? J'appelle tout de suite le directeur mémoire, je lui dis, dis donc, le mémoire, ah non, pourquoi j'ai rien vu? Mal barré, il avait déjà le directeur mémoire, il n'avait rien vu. Avec mon ordi, clic, qu'est-ce que je fais? Je contrôle, avec la soutenance. Et là, je demande à la COFI, de manière très très grave, avant de vous écouter, que vous nous affirmez que le travail que vous avez rendu est rigoureusement personnel. Ben oui, et j'en pose la question. Pouvez-vous nous affirmer publiquement que ce travail est personnel, ce que vous allez dire vous engage pour la suite? Vous voyez, genre de truc. Oui, c'est personnel. Alors là, ben, j'ai sorti les 6 sources. Le mémoire faisait 80 pages. Elle avait tout pompé. Tout! Auprès d'environ 6 sources. Ça n'est d'une conférence du philosophe Comte Sponville, qui n'était pas tout à fait au niveau de langue d'une étudiante de Bac plus 4, vous voyez. Un exposé d'une classe de terminale d'un lycée à Dijon, qui était à d'autres niveaux de banque, en passant par des articles à être pompés, y compris les photos et les légendes des photos. Tout pompé. Résultat, j'ai demandé 5 ans d'interdiction de tout examen en France. Attendez, bon. Malhonnête à ce point, faut pas pousser, voilà, ça. J'y avais passé un moment pour le trouver, hein, parce que Google, machin, je sais faire, enfin, c'est quand même bon. J'ai passé un temps. Alors, vous voulez que je donne maintenant le truc imbattable, faites courageux et malin, c'est de pomper un mémoire qui est archivé nulle part. Là, on est refait si on ne trouve pas sur le net. Ça avait pour une thèse, ça. Un de mes amis était patron d'un jury de thèse. La thèse arrive. Et à la lisant, quand même, c'était pas sur internet, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le train, il est allé à Reims, je peux vous dire. Une thèse avait été soutenue sur ce truc-là, 5 ans auparavant. Il a sorti la thèse de la bibliothèque universitaire, c'est pas évident, mais enfin, en tant que prof, il s'est pointé avec la thèse de la personne, à la soutenance de thèse. La seule chose qui a été changée, c'était la page de couverture. Tout était pareil, tout pompé. Ça s'est chauffé. Comment?
Faut au moins reformuler.
Ah bien, rien reformuler du tout.
Ça, c'est des gens qui veulent se suicider.
Ben non, parce que le type en question, qui veut avouer que c'était un producteur à France Culture, qui voulait avoir une thèse, bien sûr qu'il n'aura jamais de thèse, parce que là, il a rayé ses films. Mais il est où les thèses, je ne suis pas sûr. Dans le poste. Le truc. Mais là, il fallait se souvenir que prendre le train à ses frais, aller farfouiller dans la bibliothèque, machin, se faire sortir plusieurs têtes pour finir par tomber dans la... Vous voyez, quand même. En plus, c'était l'époque où l'inscription au fichier central des thèses n'était pas systématique, obligatoire, etc. Vous voyez, c'était, bon, bref. Donc, document personnel, en plus, ça n'a aucun intérêt. Alors, est-ce qu'il faut... Nous en reparlerons. Est-ce que vous avez le droit de citer? Bien sûr que oui. Mais quand on cite, ça se fait selon des règles très précises. Hein, bon. Très bien. Connaissance nouvelle, je crois que j'ai déjà dit, votre mémoire doit apporter la connaissance nouvelle sur un sujet. Ça doit apporter la connaissance nouvelle. C'est vraiment quelque chose qui sert. Un petit commentaire rapide. Pourquoi apporter la connaissance nouvelle? Ah oui, alors ça a toujours beaucoup de succès quand je le dis. Pourquoi au fond apporter la connaissance nouvelle? On va laisser de côté les questions psychologiques dont on a parlé. La motivation, la gratification. C'est tout à fait fondamental. Je pense que c'est d'ailleurs les raisons essentielles. Mais il y en a une autre qui est un peu cachée derrière. Ouais. J'essaie de vous le dire vite. Mais enfin, c'est... Il faut le faire venir parce que c'est assez marrant. Vos études. Qui est-ce qui paye? Qui les paye? Elles sont gratuites, vos études. Qui c'est qui paye? Quoi, ça dépend? Gratuite. Vous parlez de droit universitaire, d'accord. Vous savez ce que vous coûtez vraiment? Parce que quand on dit que c'est gratuit, vous savez le coût d'un étudiant comme vous à l'année. Un étudiant en. Comment? Ouais, c'est ça. Exactement. Vous coûtez, en ce moment, c'est à peu près 4 000 euros. Vous coûtez là, chacun d'entre vous, ça coûte 4 000 euros. Si on vous demandait de payer ce que vous coûtez vraiment pour venir suivre les cours, 4 millions. Alors, quand vous me dites que vous payez 500 euros, je veux bien, mais je me marre. C'est pas les 4 000. Et en plus, dans les 500 euros, je crois bien qu'il y a la sécu. Hein. Hein, les seuls droits universitaires, c'est-à-dire ce qui correspond au service de l'université, c'est pas 500. Rétablissons la réalité, c'est même pas 500. Bon. Donc, vos études, elles sont gratuites pour vous, quasi gratuites, elles sont bien payées par quelqu'un. Qui c'est qui se paye les 4 000 euros que vous représentez ici? On va appeler ça le contribuable, si vous voulez bien, la puissance publique, je ne peux pas dire l'État, parce que l'État, il y a l'État, mais il y a aussi les régions, le truc. Bon, on va dire le contribuable, le citoyen, si vous voulez. Enfin, celui qui paye les impôts de préférence. Donc, le contribuable, il vous paye vos études. OK? On a la chance dans notre pays que les études soient payées ben, jusqu'au plus haut niveau par le contribuable. Vous, en retour, je vous laisse qu'on continue de
lire. Vous avez connaissance.
Ah ouais. Vous remerciez le contribuable en essayant d'apporter de nouvelles connaissances. On vous apporte du fric que vous n'avez pas pour ça. Alors, au moins, ce que vous pouvez faire, c'est cogiter un petit peu pour servir à quelque chose, non? Non? À chaque fois que je dis ça, il y en a qui...
Ils sont un peu
songeurs. Il me semble, non? À un moment, il faut bien rendre ce qu'on vous donne. Donc peut-être que vous pouvez faire ça. D'ailleurs, c'est pas si fou ce que je dis. Pendant très longtemps, à la Sorbonne, l'université parisienne que chacun connaît, quand on soutenait une thèse, il y avait un usage, pas une obligation, de rendre une deuxième thèse. On appelait une thèse complémentaire. Mon propre patron de thèse a fait ça quand il a fait sa thèse, lui. Il y a la thèse principale, c'est la sienne. La thèse complémentaire, c'est une thèse qu'on offre à la Sorbonne pour remercier la Sorbonne d'avoir accueilli l'étudiant pour ses études. C'est beau comme usage, non? C'est chouette quand même. Vous rendez compte? Et ça s'est fait pendant des siècles. Ça a été le dernier exemple en date, moi, c'est les années 80, 87 ou 8, ça se pense quand même. Hein. Bon, d'ailleurs, c'est pas si vieux que ça quand même. Créer la connaissance nouvelle, alors vous y mettez les raisons psychologiques parce que c'est bien, parce qu'il y a les finalités par rapport à la com, parce qu'il y a tout, puis il y a peut-être aussi celui-là, si vous le voulez maintenant, vous êtes citoyen aussi, hein. Je vous souhaite que vous soyez contribuable. Vaut mieux payer des impôts, même si, passons. Enfin, si on ne paye pas d'impôts, soit on est très malin parce qu'on planque tout, soit, voilà, bon. Alors, dégager d'avancées épistémologiques, problématiques et méthodologiques sur le sujet retenu, ça, c'est, je mets la... Je monte à chaque fois le niveau un petit peu plus haut.
Ça, c'est le mémoire dont on va se souvenir, parce qu'il a fait une avancée méthodologique.
Une avancée méthodologique où vraiment il a fait quelque chose de formidable. Par rapport à la culture dont on a parlé la dernière fois, un étudiant qui est à Lyon maintenant, Olivier, Absalon, parce que lui c'est très ancien, je peux dire vraiment, nous fait un mémoire sur les expositions dans les musées. Les expositions, alors ils font un corpus exposition impressionniste. 50 années d'exposition en France, vous voyez les jeunes corpus. Et la question, c'était est-ce que les catalogues des musées se transforment en livres d'art, en perturbant le marché du livre d'art, puisque le livre d'art c'est très cher, mais c'est privé, et les musées c'est public. Vous voyez la question. Bon. Donc il fait son truc, un énorme boulot, super bien, et à un moment, il invente quelque chose. Pour comparer, il fallait qu'il compare. Il avait une pile de catalogues autres comme ça, et des livres d'art à peu près équivalents. Il voulait montrer que le livre d'art se rapprochait du... Enfin, le catalogue se rapprochait du livre d'art. Qu'est-ce qu'il a pris pour ça? On pouvait prendre, évidemment, l'iconographie, la maquette et compagnie. Et bien, son avancée méthodologique, c'était de prendre, oser faire ça, le prix au kilo. Si vous voulez le faire dépendamment du contenu, qu'est-ce que vous allez prendre? Les livres d'art, c'est des livres épais, il y a du très beau papier, toujours. Ben, il a pesé les livres. Il a pesé les catalogues, il a mis ça sur une courbe. Il a vu qu'au début, les livres étaient hauts comme ça, je le fais dans votre sens. Les livres étaient hauts comme ça, les catalogues étaient comme ça. Puis lui, ben, il continue comme ça, en fonction de l'inflation, sous les top. Et puis les catalogues, ils montaient, puis paf, à un moment, il a rejoint, il y a aussi. Démonstration magnifique du fait que le catalogue joue à jouer au livre d'art. Donc son avancée, c'est modeste. Appliquer le prix au kilo qu'on utilise d'habitude pour les pommes de terre ou je ne sais pas quoi à des livres. Génial, non? Tout à l'heure, je disais inventer vos propres outils. Il n'a pas inventé le prix au kilo, mais il a inventé l'usage du prix au kilo pour des objets que d'habitude on ne mesure pas au kilo. Tout ça, bien sûr, en euros constants et compagnie. Imaginez qu'après, il fallait. Bon, ça, c'est du détail. Hein. Bien sûr, ramener à des euros constants pour avoir une courbe. C'est ça des avancées. Ça peut être modeste. Une autre. Allez, si vous, il faut m'arrêter quand je vous parle des mémoires, c'est tellement passionnant. Une étudiante travaillait dans la communication automobile au moment du passage du camping du monospace au SUV. Et je vous passe le détail, c'était pour montrer que c'était la réunion des aspirations et de. Des espérances, l'espérance entre le suivant. Bref, elle a forgé un néologisme. Aspirance. Aspiration, espérance. Ça allait le faire, non? Aspirance. Et ça a été repris d'ailleurs par une agence de marketing quelques années plus tard, comme par hasard.
C'est ça les avancées, puis je pourrais vous en raconter plein d'autres, mais j'en finirai pas. Perspective nouvelle de vérification, transfert des hypothèses. Le transfert, ça c'est très intéressant, c'est quand vous bossez sur un sujet. Et que ça peut se transférer sur des sujets connexes. Et on va terminer là-dessus. Assurer une espérance de vie suffisante aux mémoires. Au minimum, j'ai marqué 3-5 ans. De 3 à 5 ans.
Rien n'est plus vexant que le mémoire dont on vous dit à la fin de la soutenance, bon bah oui, je vous ai lu, j'ai déjà oublié, ça ne m'a rien apporté. Ciao. En fait, vous avez bossé des mois pour le coup. Alors qu'un bon mémoire, il doit continuer à être utile, à être quelque chose qu'on a envie de lire, une référence, pendant 3 à 5 ans, au moins. Les grands mémoires, 10 ou 15 ans après, avant qu'on nous pigne nos archives, là, comme je vous le disais, de temps en temps, les étudiants s'amusaient à lire, juste pour le fun, hein, des mémoires d'il y avait 15 ans. Et purée, les trucs. Alors, parfois, c'est rigolo, parce que c'est un côté passé, surtout quand il y a des illustrations sur la pub. C'est toujours marrant de voir la pub, la mode il y a un certain nombre d'années. Mais indépendamment de ces aspects-là, c'était très costaud par rapport à la structure, par rapport à la force que ça peut représenter. Hein, il y a des choses d'ailleurs qui font maintenant des lois. Manque de peau, c'est pas là. Les sites de consommateurs, j'ai eu un mémoire, je m'arrête là-dessus. J'ai eu un site de mémoire, mais non un mémoire qui se posait la question, est-ce que les sites d'opinion consommateurs, pose la question comme ça, c'est pas encore la problématique, on en verra après. Donc je vous reciterai peut-être pour la problématique. Est-ce que les sites d'opinion conservateurs sont en passe de détrôner les journaux de consommateurs, les associations de consommateurs? C'était fait il y a quelques années. Travail magistral qui répondait oui, qui donnait des stratégies aux éditeurs pour se défendre contre ça. Et quelques années plus tard, qu'est-ce que ça donnait, ces mémoires? Alors, manque de peau, après, c'est la prévention qu'il faudrait pouvoir faire des mémoires. Et ça, on n'a pas les moyens, les meilleurs sites, on est nuls pour ça. On devrait avoir un service plutôt que de manger dans les bureaux et faire n'importe quoi. Parmi moi, je parle mal, mais c'est exprès pour montrer que les points, c'était erreur. Les critiques, on a ici, pour promouvoir ces mémoires. Tellement c'est passionnant, parce qu'il y a une loi qui est passée, ou qui est en train de passer, je ne sais plus trop, pour justement légiférer, on adore en France, les sites de consommateurs pour que, etc. Et notre mémoire qui a été soutenue ici il y a 6, 7 ans, 8 ans, il y a, tout était dedans déjà. Vous voyez ? Donc son espérance de vie, c'est bien au-delà du 3 ou du 5 ans. Et après, le problème, c'est ça, c'est personnellement, ça me fout dans les rages. On ne sait pas, bon, on ne sait pas expliquer à la société tout l'intérêt des travaux qu'on peut faire ici. Parce que tout le monde s'en fout, parce qu'on dit qu'on n'a pas d'argent pour ça, on préfère en gaspiller pour des bêtises. Et alors que, voilà, ça donne une loi. Bon, voilà, bah on s'arrête là pour ce matin. J'ai chargé un peu la barque, hein. Peut-être que les autres fois, on finira même un petit peu plus tôt. Normalement, c'est midi et demi, c'est pour que j'ai mon ratio d'heure, mais on verra si après on finit un peu plus tôt. Mais je voulais arriver à ce niveau de mes diapos. Voilà. Voilà, vous avez quoi, vous, de 2 à 4, alors vous avez? Ah, vous avez rien? D'accord. Je ne sais pas dans quelle salle vous étiez. Bah, de toute façon, on va se voir après. Bah, vous pourrez éventuellement, si vous voulez, si vous n'avez rien à faire, si vous voulez, moi j'ai les N2 que j'accueille à 2 heures, de 2 à 4. Si vous voulez venir un peu avant, c'est pas obligation, c'est pas du tout. Si vous voulez venir un peu avant pour faire connaissance et discuter avec vous, je serai dans cette salle de 2 à 4. Ok, la proposition que vous avez faite, vous êtes libre. Si vous voulez venir, vous venez. Vous êtes invité à venir faire connaissance avec eux si vous le souhaitez. Sauf qu'eux, ils ont cours après. Mais au moins, allez voir un petit peu, quoi. Hein, ça serait sympa.